Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Syllabe, la radio sauvage des campus rennais. Vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire du lundi soir. Attention, on n'a ni la langue ni les yeux dans les poches, on se tient bien solide sur nos appuis, même si on doit passer par la case kiné. Et là, on sait quelque chose. J'en ai encore une séance la semaine prochaine. Point serré sur le micro, et tant pis si la voix tremble d'émotion, la détermination, elle sera là. Pour citer le docteur Arthur Faucoux, lire, c'est aussi savoir se dresser contre notre moi actuel afin d'embrasser une nouvelle humanité. J'ai lu cette citation sur TikTok et je me dis, ouais, il faut que je la mette parce que c'est réel. Pendant longtemps, moi, je ne me suis pas définie comme une grande lectrice parce que je lisais surtout des livres de sport et notamment des livres de foot. Je jouais donc des magazines, des revues, des textes de thèse autour du jeu, des joueurs, des histoires autour du football. Mais avec le temps, et surtout en préparant cette émission, je me suis rendu compte que c'était une manière comme une autre de lire et de se renseigner. Tant les formats étaient diversifiés. Donc dans cette émission spéciale, hors jeu littéraire, la chronique de littérature sportive joue les prolongations. On continue de parler de football, puisque la Coupe du Monde 2026 pointe le bout de son nez, mais par les livres, par les récits, par les mots. Et ça, ça change tout. L'intérêt ici est de vous permettre de repartir de cette émission avec l'envie de lire, d'avoir des nouveaux éléments, d'aller chercher des éléments aussi par vous-même, et de vous renseigner au niveau des ressources. Au programme, édito, interview ou encore chronique BD. Tout cela dans la joie et la bonne humeur. Place à l'édito.
Nietzsche a dit...
L'édito, tu écouteras, jeune padawan.
Je ne vous pose pas la question, je l'affirme. Le football est politique. Et si cette idée vous agace, tant pis. Vous pouvez toujours aller écouter Vent Debout, par exemple, le podcast de Clotilde Sauvage et Sylvain Palais qui remet très justement le sport à sa place politique. Parce qu'en 2026, il serait peut-être temps d'arrêter avec cette vieille rengaine, celle du « par principe, il ne faut pas mélanger sport et politique ». Vous savez, cette phrase qu'on ressort comme un tour de magie un peu fatigué, qui révèle juste les privilèges de chacun et chacune. Un peu comme ce discours du président de la Fédération Française de Football quand on lui a posé la question du boycott. Philippe Diallo nous explique que le sport est un lieu de rassemblement de tous les peuples, quelle que soit leur origine, leur religion, leur orientation. Ironique. Ou indécent. Quand on pense aux discriminations subies par certaines joueuses et certains joueurs, notamment de confession musulmane, ou au silence persistant face à des cas de racisme. Mais bon, je digresse. Quoique, dans Une histoire des Bleus en crampons, François Narocha Carnero nous rappelle que certaines défaites contre l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre réveillent encore en France des rancunes très profondes. Comme si le football continue de porter l'ombre de l'histoire avec un grand H. Ces rancunes sont visibles souvent dans les médias. En revanche, quand il s'agit de regarder en face la colonisation, ses violences, ses héritages et leurs effets actuels, là, beaucoup préfèrent l'amnésie, l'aveuglement, ou comme le gouvernement français actuel, le déni. Car il ne faut pas l'oublier, le football n'a jamais été neutre. À la base, il a aussi servi à discipliner, hiérarchiser, encadrer dans les espaces coloniaux. Il a été utilisé comme un instrument de contrôle de civilisation, vous ne voyez pas, mais j'ai mis des guillemets, et des très gros guillemets, et aussi de domination, avant d'être réapproprié par celles et ceux qui en ont fait un espace de lutte, de mémoire, de résistance et de fierté. Alors par respect pour eux et elles, arrêtez de nier la dimension politique de ce sport. Je ne suis pas à genoux dans ce studio, mais le cœur y est. Sans cela, on continuera à tourner en rond sur ces sujets. Et si ce sujet me touche autant, c'est aussi parce qu'il me traverse intimement. Il faut savoir que je suis franco-ivoirienne. Donc je suis née à Meulan, près des Mureaux, et si je dois encore préciser, c'est en banlieue parisienne. Oui, la vanne est tentante parce qu'il est dans le 78, mais on va s'en passer. J'ai ensuite grandi à Rennes, ville antifa. Cette identité a forcément façonné mon regard sur le football. En 2005, par exemple, lorsque la Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, il se passe quelque chose de plus grand qu'un simple espoir sportif. Il y a un souffle, une émotion, une parole qui dépasse le terrain.
Je vais évidemment vous parler de Didier Drogba,
Alors, je vais m'appuyer sur le portrait réalisé par Bernard Morlinot dans Les Rebelles du football, portrait de 40 footballeurs libres et engagés, pour vous situer un peu le personnage. Je cite « Didier Drogba est un mythe à Chelsea. Il l'est encore plus en Côte d'Ivoire. International depuis 2002, il parvient à conduire les éléphants à disputer leur première Coupe du Monde, celle de 2006. Le 8 octobre 2005, quand le pays obtient son billet pour l'Allemagne, Drogba, au milieu de ses camarades, prend la parole en direct dans les vestiaires. On écoute ensemble.
Ivoirien, Ivoirienne, du nord et du sud, du centre à l'ouest, vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades.
Et ce passage, il rappelle bien que c'était pas un moment de football, que c'était un moment vraiment aussi politique, un moment de mémoire, un moment de bascule. Moi, à l'époque, j'avais 7 ans, donc je comprenais pas tout. C'est vraiment en grandissant que j'ai pu comprendre la portée de ce discours. Puis la Coupe du Monde 2010 est arrivée. C'était en Afrique du Sud, j'étais contente, c'était la première fois sur le continent africain. Mais avec elle, la fin de mon innocence a sonné. Je vais être transparente avec vous, je n'ai pas regardé le documentaire sur la grève du bus que Netflix a diffusé. Parce que ça reste un réel traumatisme, tant il a créé une fracture dans mon identité, alors que je venais à peine de rentrer au collège. Et pour être honnête, je n'avais pas besoin de ça pour savoir que les joueurs n'étaient pas en tort, et que Raymond Domenech était un sale type. J'avais déjà vécu du racisme, donc en primaire et en maternelle, mais ma maman avait toujours fait en sorte que je me sente en sécurité, même entourée de personnes uniquement blanches. Mais le traitement médiatique et politique de Naïsna a fracturé quelque chose. Depuis, j'ai quand même beaucoup de mal à supporter l'équipe de France masculine. Je supportais juste des joueurs, pour leur carrière, pour leur accomplissement. Mais en tant que telle, l'équipe de France masculine, j'ai du mal maintenant. Au collège, j'avais repris quelqu'un en permanence qui répétait en fait ce qu'il avait entendu à la radio ou que ses parents lui avaient dit. Et il m'avait rétorqué « T'es pas comme eux, toi, donc je vois pas pourquoi tu les défends. » Et j'étais sidérée. On nous avait repris à l'ordre, donc je n'ai pas pu répondre. Je précise que j'étais dans un collège privé et je suis rentrée, en fait j'étais très triste et j'ai pleuré. J'ai pleuré devant mes parents et mon père m'a expliqué clairement qu'il fallait que je me protège, que j'évite de me retrouver dans ce genre de conversation et de ne pas exposer mes idées. Et dans le même temps, il m'a expliqué que seule la connaissance me protégera. Et je l'ai peut-être pris à la lettre. Et j'ai commencé à lire des textes qui méritent d'être un peu plus matures. Mais en tout cas, je n'ai cessé de faire des recherches sur ces sujets, le racisme, le mépris de classe. Et là, j'ai vraiment commencé à comprendre que le football ne racontait pas seulement des scores, il racontait aussi nos mémoires, nos rapports de pouvoir, les héritages coloniaux et la place qu'on accorde ou qu'on refuse encore aux corps noirs et aux voix venues d'ailleurs. Pendant ce temps, ce sont toujours les mêmes qui payent le prix. En RDC, la qualification historique des Léopards pour la Coupe du Monde 2026 fait naître une joie immense. Mais elle ne doit pas faire oublier ce que rappelle la Fondation Pandi. À l'est du pays, la guerre, les violences sexuelles et l'effondrement des protections continuent de frapper les populations. Le risque, c'est que le sport, ici le foot, serve de vitrine à un récit de puissance pendant que les réalités du terrain restent les mêmes. Et c'est exactement la même question qui se pose à Gaza. Le génocide a fait 73 000 morts d'après Libération, un chiffre très sous-estimé car il ne prend pas en compte les décès indirects. L'agence Média Palestine évoque près de 672 athlètes tués. Parmi eux, Souleymane Al-Obeid, surnommé le Pelé palestinien, joueur international mort sur les tirs israéliens alors qu'il cherchait de la nourriture. Mohamed Salah lui a rendu hommage en dénonçant la tiédeur du communiqué de l'UEFA en rappelant une question essentielle. Comment est-il mort? Où et pourquoi? Car nommer, c'est déjà résister. Et aussi, c'est pour ça qu'il faut penser le boycott sportif et culturel, mais ici on va parler de sport,
d'Israël. D'ailleurs, l'ancien sélectionneur de l'Irlande, Brian Kerr, a appelé au boycott d'Israël en Ligue des Nations. Et j'espère qu'il sera suivi, donc notamment je pense de l'Espagne. La France, je n'en attends plus rien, malheureusement. Mais ce serait bien, effectivement, que des voix s'élèvent pour faire bloc, comme ça a pu être le cas avec l'apartheid, sous l'apartheid, pardon, en Afrique du Sud. On parle souvent de l'exclusion de la Russie, et dernièrement, en discutant sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion que la Crimée avait déjà été annexée par la Russie lorsque la Coupe du Monde s'est jouée en 2018. Donc ils ont exclu la Russie quand c'était plus confortable pour eux et pas par respect du droit international. Donc voilà. Donc il est important, il y a en France du coup un collectif pour le boycott sportif et culturel. Je le mettrai en lien de l'article du podcast. Parce que comme je l'avais vu dans une projection du film d'animation Le procès de Mandela et les autres, c'est aussi à nous de faire le taf et de se mobiliser encore une fois et plus nombreux. Parce que le sport n'est pas hors du monde, il est traversé par ses violences, ses silences et ses hypocrisies. Aujourd'hui, on va donc prendre le temps de voir à travers des récits de mémoire, des essais philosophiques et des bandes dessinées comment la plume raconte la lutte contre le système et ce qu'elle transmet comme savoir. Avant de retrouver notre premier invité, une petite pause musicale pour accompagner nos pas vers ce chemin d'émancipation culturelle.
Il est l'heure, en Côte d'Ivoire. Levons-nous pour la gloire du pays. C'est ça qui est ma rêve.
On veut s'amuser. Arrêtez votre fusil à aïe, 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 aïe.
On veut s'amuser. Arrêtez votre fusil à aïe.
On veut la paix.
On veut s'amuser. Arrêtez votre fusil à aïe.
Asayango.
C'est naturel de dire la vérité, oh maman.
Y'a la paix, y'a la vie, y'a la joie en Côte d'Ivoire.
Jaloux.
Non, veut s'amuser, arrêtez vos fusillades. Non, veut s'amuser, arrêtez vos fusillades. Non, veut s'amuser, arrêtez vos fusillades. Non, veut s'amuser, arrêtez vos fusillades.
A dit fait,
on veut plus ça.
A dit fait là,
on veut la paix.
A dit fait,
on veut plus ça.
A dit fait là,
on veut la paix.
Ils ont caché dit fait.
Tombé aussi craché au fait gâté,
Diffé,
on veut plus ça.
A Diffé là,
on veut la paix.
Y'a des Maliens, des Guinéens, nos frères aussi, et n'est des grattés. Non, n'est pas xénophobe, on est trop gentil. Et n'est guéfé, n'a Diffé, n'est Diffé.
C'était le collectif Youssoumba avec le titre Effort de paix que avaient chantonné les éléphants. Après le discours de Drogba en 2005, le pont entre la culture et le sport était là, comme quoi tout est politique. On dit souvent donc que le sport est un jeu, parfois un spectacle, parfois même une distraction. Mais avec Eugène Jolea, on voit très vite que le sport peut devenir bien plus que ça, un lieu d'engagement, de dignité et de combat. À travers son parcours, c'est toute une histoire du sport comme force politique qui se dessine. Écoutons ensemble un extrait de Jean-Célestin Edjangé, co-auteur de l'ouvrage Eugène Jolea, la trajectoire d'un homme en avance sur son temps, qui revient sur cette trajectoire singulière de cet homme venu du continent africain.
Pour présenter un peu le décor, qui était Eugène Jolea?
Alors, Eugène Jolea était un Camerounais qui est arrivé en France en 1951. Lui, il est né en 1931. Ça veut dire qu'il est arrivé en France à l'âge de 20 ans, à un âge où on imagine bien très peu de jeunes Africains sortaient du continent pour aller dans un autre continent. Il arrive en France pour faire des études. Il a bénéficié d'une bourse d'études au Cameroun qui lui permet de venir poursuivre ses études en France. On se rend compte qu'en fait, il n'est pas que quelqu'un qui peut réfléchir et faire des choses intellectuelles. Il a aussi ses jambes. Il se retrouve du côté de Rouen.
Alors justement, oui. Jean-Célestin, parlons de sa carrière, parce qu'il a connu deux grands clubs, Lyon et l'AS Saint-Étienne.
C'était donc l'un des co-auteurs de l'ouvrage qu'on va aborder tout de suite, Jean-Célestin Edjangé, qui a parlé d'Eugène Jolea dans une interview sur TV5 Monde que vous pouvez retrouver sur YouTube.
et que je mettrai en lien de cette émission. Donc maintenant, on va passer à l'interview. Donc, il faut savoir que j'ai décidé de mettre Julia au centre aujourd'hui pour refuser l'oubli, rappeler que les figures noires du sport ont produit bien plus que des performances. Elles ont porté des idées, des ruptures et des prises de position. Et donc aujourd'hui, on reçoit Serge Gunga, qui est présent avec nous pour parler de l'ouvrage et vous aider à en découvrir davantage sur l'homme. Bonjour Serge, merci à toi de nous rejoindre pour ce moment de mémoire et de me permettre d'honorer l'homme qui était Eugène Julia. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ?
Bonjour Marilyn, bonjour à tous, merci. Je vais me présenter assez rapidement, je suis Serge Gunga, écrivain, poète, résident en France depuis une trentaine d'années, président d'une association, d'une amicale des auteurs de la diaspora. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je réside en région parisienne et pour moi, écrire est une passion. Parler des sujets de mémoire, de transmission, c'est un devoir.
Maintenant, j'aimerais bien parler de qui est l'initiative de cet ouvrage de mémoire.
Alors, écrit sur Eugène Julia était une initiative de la Maison des Camerounais de France, une association camerounaise qui est là depuis quelques années, qui milite pour la valorisation des hommes et des femmes qui sont partis d'Afrique, du Cameroun précisément, et qui ont pénétré différents circuits, différents endroits de la société française. C'est valoriser ces personnes-là. Donc cette idée a été mise en valeur par son président, le président Abdelaziz Moudé, qui nous a réunis un certain nombre de jeunes intellectuels, auteurs, sociologues camerounais pour réfléchir justement à un parcours d'hommage à des figures d'origine camerounaise.
Pourquoi le choix de l'association s'est porté sur lui et pas un autre ?
Le premier nom qui nous a paru comme une évidence était Eugène Julia, de par son parcours, un étudiant qui est venu apprendre, qui a bénéficié d'une bourse, qui venait faire ses études, et ensuite, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il avait aussi ses deux jambes, donc footballeur émérite, qui a fait les belles heures de Saint-Étienne et des Lyons, et puis après militant, puisqu'il a fondé avec Guy Bertrand, l'avocat Guy Bertrand, comment dirais-je, Jeux Fontaine, l'Union nationale de footballeurs professionnels qui aujourd'hui permet à des joueurs comme Mbappé et d'autres de gagner beaucoup d'argent et d'être à la fois à l'abri du besoin, ce qui n'était pas le cas de Eugène Julia à la fin de sa carrière, et surtout donner les droits aux footballeurs qui n'en avaient pas dans les années 40-50 et voire même début des années 60-70.
Très bien, merci beaucoup. Et donc, comment s'est fait la rencontre avec la maison d'édition puisqu'il s'agit, donc vous ne voyez pas ça à l'antenne, mais il s'agit d'un très beau livre de grand format avec de belles images. Donc, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était compliqué comme parcours vu le sujet ?
Alors, il faut préciser deux choses, Marilyn. Cet ouvrage était fait en deux temps. D'abord, sous le biais de l'association, dans la Maison des Camerounais de France, le centre franco-camerounais, centre culturel. Donc on a édité cet ouvrage par nos moyens. Parce que c'est compliqué de publier un beau livre. Bon, on l'a fait, on l'a sorti en quelques exemplaires. Ça, c'était en 2026. On l'a sorti en 2024. Après 4 ans de travail, il faut dire que le projet a commencé en 2021. Donc en 2024, l'ouvrage est sorti. Ensuite, on a voulu faire une mise en page, passer par une maison d'édition. Et c'est là où nous avons rencontré Serge Loré, qui est directeur d'une jeune maison d'édition qui s'appelle Le Lynx. Il est, dans le monde de l'édition depuis une trentaine d'années. Il a souhaité nous accompagner pour la réédition de ce beau livre, donc qui est sorti chez Le Lynx Édition au mois de février 2026. Un format complété et mis à jour.
D'accord, très bien. Et donc du coup, maintenant on va passer du coup au sujet de ce livre, donc Eugène Julia. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur sa facette militante et diplomate, surtout militante, puisque le sujet de l'émission aujourd'hui est donc le foot politique. Alors qui il était et comment il est arrivé à se poser la question de défendre en fait les droits des joueurs ?
Alors, imaginez-vous un étudiant qui arrive à la fin des années 50. Il vient étudier en France, boursier de l'État du Cameroun. Il vient pour faire ses études de droit. Bien entendu, quand on est étudiant, ben, on a le temps de s'amuser. Enfin, quand on est élève, j'ai commencé d'abord par le lycée. Quand on est élève, on s'amuse dans les cours d'école, etc. Et un club local identifie sa performance de jeu, il engage, il joue, il gagne avec un score fleuve. L'équipe de Saint-Étienne en local l'engage. Et c'est comme ça qu'il commence, on va dire, une carrière footballistique assumée. Et donc, le côté militantisme arrive un peu plus tard, quand il est obligé, puisque Saint-Étienne n'a pas d'université, d'aller faire ses études du côté de Lyon, puisqu'il a joué à Saint-Étienne pendant quelques années, ensuite à Lyon.
Oui.
Et à l'époque, les joueurs appartiennent au club. Voilà, il y a un contrat presque à vie.
Oui.
Les joueurs sont des objets, on n'est pas dire des esclaves, comme le dirait Raymond Coppa à une période de mouvement footballistique. Oui. Donc les joueurs appartiennent au club. Et donc, Eugène, avec Jules Fontaine, l'avocat Guy Bertrand, que Eugène propose dans l'idée de mettre en place une fédération, une association sportive autour pour défendre les droits des footballeurs. Il ne faut pas oublier qu'il vient faire des études de droit. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien en matière de défense de droit. Avec donc l'avocat Jacques Bertrand, un avocat déjà aguerri, donc ce qui facilite la mise en place de ce syndicat de footballeurs. Donc, bien sûr, l'idée vient de Jean Julia, mais il estimait que Jules Fontaine était chez lui la figure emblématique qui pouvait porter
le sujet.
Donc, qui pouvait porter le sujet. Donc Jean devient secrétaire de la structure et Guy Bertrand le conseiller. Et c'est comme ça qu'en 1961, l'UNFP se met en place. Il faut dire que ce n'était pas facile. Mais se sont battus. Et puis le 16 novembre 1961, donc naît l'UNFP avec un dépôt légal et statué à la préfecture de Paris.
Très bien. Et donc tu disais qu'il était venu du Cameroun d'abord pour étudier. En quoi son histoire, elle éclaire aussi les liens entre le sport, l'anticolonialisme et les combats politiques? Parce que quand il vient en France, le Cameroun est encore colonisé?
Alors, oui, puisque le Cameroun obtient son indépendance en 1960, précisément le 1er janvier.
Mmh.
Il faut dire aussi que Eugène a quitté le Cameroun en 1951.
Mmh.
Bon, il arrive, le Cameroun est encore sous tutelle de la France. Bon, on va dire que le Cameroun, comme disent certains juristes, n'a pas été une colonie française.
Oui.
Puisque c'était une colonie allemande, et lorsque l'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale, il y a deux pays africains qui étaient sous tutelle de l'ONU, gérés, administrés par la France, le Togo et le Cameroun. Okay. Donc il y a, on va dire, une relative facilité de mouvement entre le Cameroun et la France. Donc Eugène vient pour étudier. Donc il fait ses études. Après maintenant, la France, des années 55 jusqu'à 65, connaît un vent de contestation de ses colonies.
Oui.
Qui ont bien sûr, qui aspire à l'indépendance.
Oui.
Le Cameroun n'est pas exempté de ça, puisqu'il y a eu des mouvements d'indépendance au Cameroun, bien que le Cameroun ait été sous tutelle française. Donc, Eugène arrive, boursier de l'État camerounais encore sous tutelle française, puisque ça se mettait déjà en place. Il ne faut pas oublier que la France formait la jeune administration camerounaise,
oui,
qui était appelée pour prendre les rênes du pays.
Oui. Donc,
dans ce contexte-là, Eugène part en mission pour étudier et revenir servir son pays.
Son pays, oui.
Donc, ce qui fera plusieurs années, quelques années plus tard, en étant diplomate.
Très bien. Et donc, du coup, parce que lui, il y a une citation que je vous mettais en début d'ouvrage. Je cite, « Pour nous, autres Africains, le football n'est pas un objet de contemplation, mais un instrument de combat contre le sous-développement et pour l'affirmation de notre personnalité. » Donc, comment cette citation, comment cette philosophie, elle l'a accompagné donc de l'UNFP, mais jusqu'à son rôle de diplomate.
Vous savez, de ce que j'ai compris, appris de la vie de Jeanne, c'était un altruiste.
Okay.
Quelqu'un qui se mettait toujours au service des autres. Il a commencé déjà au sein de sa famille, au sein de son entourage. Et naturellement, quand il étudie en France, il a toujours, voilà, il est porté par ses valeurs africaines, mais plus particulièrement parce que c'est un altruiste. Et c'est ainsi qu'il joue pour Saint-Étienne, il participe aux belles années de Saint-Étienne. Et à l'époque, et à l'esprit que les joueurs sont mal payés, quand un joueur se blesse, bah, à l'époque, la sécurité sociale n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Mmh.
Il doit pouvoir compter sur ses moyens ou ceux de sa famille. Et les joueurs n'avaient pas de retraite ou de, il n'y avait pas de contrat à temps. Donc voilà, cet homme de droit, cet humaniste, il vit tout ça. Bon, il vient certes pour les études. Il pouvait rester uniquement dans ce couloir-là.
Mmh.
Il choisit de mettre sa connaissance, ses compétences au service d'un groupe. Il est en France, il n'est pas français. Donc il décide d'initier quelque chose qui va progressivement sortir le football, surtout les footballeurs, de la précarité. Donc malheureusement, Tolia est mort dans la précarité.
Ah oui?
Quelqu'un qui a mis son talent, son énergie, sa vie pour la cause des autres,
mm-hmm.
bah, n'a pas eu
les résultats de
tout son combat, de combat d'une vie.
Très bien. Et parce que donc tu me dis qu'il est il est décédé, donc il était né en 2006. Là, on est en 2026. Est-ce que tu sens que sa mémoire, elle est oubliée? Par exemple, au trophée UNFP, on n'a pas eu de moment de mémoire. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça t'inspire ou ça te... Je ne sais pas.
Alors, sa mémoire n'est pas oubliée puisque sur le site de l'UNFP, il y a toujours, comment dirais-je, cette première ligne hein,
mm-hmm.
où il est dit qu'il faut une idée. Jeanne Jolea en a une, créer un syndicat de football. Je me souviens, Jules Antenne, c'est Jeanne qui avait une idée tous les 30 secondes. Voilà.
C'est ça.
Jules Antenne rend hommage à Jeanne Jolea. Tout le monde le sait, du moins les personnes de cette époque-là. Mais aujourd'hui, 20 ans après le décès de Jeanne Jolea, est-ce que les footballeurs professionnels, ceux qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, savent que c'est le combat, le militantisme de Jeanne Jolea qui a permis à ce qu'il y ait la défense des intérêts, des droits des footballeurs? Je n'en sais rien. Il y a un travail de pédagogie à mettre en place.
Mm-hmm.
Donc, je veux dire simplement que sur l'ensemble des prix de l'UNFP, il n'y a pas un prix dédié à la mémoire de Jeanne Jolea. Il y a les prix Raymond Kopa, il y a mm-hmm. les prix de Jules Fontaine, mais pourquoi pas un prix Jeanne Jolea?
Effectivement, surtout qu'il y a un trophée ouais. du citoyen, donc qui pourrait correspondre en fait à l'œuvre de la vie de Jeanne Jolea.
Oui, tout à fait, puisque c'est quelqu'un qui a été le premier secrétaire, qui a été l'initiateur, qui a été le moteur. Et ben voilà, pour moi, ce serait qu'un hommage mérité et normal pour le travail de cet homme-là, dont nous craignons qu'il rentre assez rapidement dans l'oubli.
Dans l'oubli. Mais on va se battre pour que ce ne soit pas le cas. Surtout vu l'actualité. Et d'ailleurs, pour faire le pont entre les époques, Mbappé est sorti de son silence, entre guillemets, et a parlé de la place, de la parole des footballeurs dans la vie citoyenne. Donc, est-ce que toi, tu penses que ça pourrait l'inspirer un parcours comme celui de Jeanne?
Alors, on dit souvent autre époque, autre mœurs. Mbappé, il est le produit de son temps.
Mm-hmm.
Oui, les footballeurs doivent pouvoir s'exprimer. Enfin, je trouve très bien qu'ils s'expriment, hein, puisque d'abord, c'est quelqu'un d'intelligent, de talentueux. Après, maintenant, ce qu'il dit, c'est toujours réfléchi et intelligent, même s'il a toujours eu une forme de spontanéité.
Mm-hmm.
Après, c'est quelqu'un qui sait assumer ce qu'il dit. Hein. C'est pas voilà, il va pas changer d'avis.
D'accord.
Il se trouve qu'il est du même pays que Jeanne Jolea. Mais mm-hmm. indépendamment des pays d'origine, ce qui est important dans ce que dit Mbappé, c'est que bon, le football est un sport universel qui doit rassembler les cœurs, les esprits, qui doit faire vibrer.
Mmh.
C'est ce que Jeanne a souhaité faire. Il faut savoir que la France a été pionnière dans la défense des droits des footballeurs.
Donc, oui.
Il a mené plusieurs années à la création de la FIFPro,
c'est ça.
La Fédération Internationale des Footballeurs, enfin, ce rassemblement des footballeurs qui a travaillé de concert avec la FIFA. Ce n'était pas gagné d'avance.
C'était pas gagné d'avance, effectivement. Oui.
Voilà, et il ne faut pas oublier qu'en mai 68, en France, il y a aussi un mouvement d'humeur des footballeurs.
Oui, mené par des footballeurs amateurs, oui.
Exactement, le football aux footballeurs. Donc, c'est pour dire que le football ne peut pas s'exenter d'un militantisme, en fait, d'une certaine manière, du moins, au début de ces années-là. Donc, Mbappé n'est que dans la ligne droite de ce que ses prédécesseurs ont fait. Parce que vous savez, le football, c'est un sport populaire.
Oui.
Il est même beaucoup plus intéressant que la politique. C'est pour ça que certains hommes politiques s'emparent du football. Rappelez-vous de Chirac qui n'aime pas le foot, mais qui en 1998 a vibré avec...
Qu'est-ce que tu peux recommander comme lecture en plus du livre ?
Ce que je peux vous donner comme élément de lecture pour d'autres ouvrages, j'ai comme ça en mémoire Noir-Bleu, du frère de
Basile Boli,
Claude Boli, qui est un magnifique ouvrage. Bon, il y a aussi son ouvrage sur Mohamed Ali, parce que bon, on est autour du sport.
Et puis la Coupe du Monde aux États-Unis.
Exactement. Donc, d'une certaine manière, je dis, le sport fait partie de la politique. Le sport est un élément d'engagement citoyen. Le sport a permis à des hommes et des femmes, on va dire, du peuple noir. Le sport a toujours eu un élément de militantisme, d'une certaine manière, puisque bon, c'est comme la voix des sans-voix, ou alors une façon pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer d'utiliser leur activité pour mettre en avant les causes qu'ils défendent.
Très bien.
Voilà quelques ouvrages que je peux vous recommander.
Très bien, merci. Et un dernier mot, si tu pouvais résumer du coup en une phrase son apport, si les gens devaient retenir une seule chose de Eugène, ce serait quoi ?
Bah, pour Eugène, en une phrase, je dirais, pour les Africains, comme pour Eugène Gélia, le football n'est pas un objet de contemplation, mais un instrument de combat contre le sous-développement et l'affirmation de la personnalité. Eugène l'a dit il y a très longtemps, mais ça reste encore valable aujourd'hui.
Merci Serge pour ce bel échange de transmission et de récits de mémoire.
Merci beaucoup Marilyn, merci à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Merci à votre émission.
Merci. Au revoir, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Après ce bel échange avec le co-auteur donc de Eugène Gélia, Trajectoire d'un homme en avance sur son temps, j'espère que le trophée citoyen de l'UNP sera renommé en sa mémoire. Je pense que les réseaux sociaux peuvent faire quelque chose à ce niveau. Vous pourrez donc retrouver l'ouvrage à la FNAC sur Amazon, même si j'aimerais que vous privilégiez les librairies. Donc maintenant, on va faire une petite pause musicale pour bien digérer les informations. Serge Gunga. Donc maintenant, on va retenir de l'histoire d'Eugène Gélia que c'est important de savoir que le sport n'est jamais séparé du monde, ni des rapports de pouvoir. Son parcours dit quelque chose de la dignité, du combat et de la façon dont un sportif peut aussi devenir une figure politique. Et justement, cette question du sport comme instrument de pouvoir, on la retrouve de manière brutale dans Noir Mondial 78, qui nous ramène à une autre Coupe du Monde, une autre époque. C'est la chronique BD.
La chronique BD.
La quoi ?
Moi, j'ai rien compris à cette phrase.
Allez.
La chronique, ta mère.
La quoi ?
La chronique BD.
Ok.
Noir Mondial 78 est une œuvre
anthropomorphique. Donc l'anthropomorphisme, c'est une tendance à attribuer des objets à des objets et à des animaux une forme humaine. Donc c'est par ce biais-là que Camille Pouzol et César Carrizo ont décidé de compter l'une des plus sombres pages de l'histoire argentine de la seconde moitié du XXe siècle. Donc on nous plonge dans l'Argentine de Videla, donc une dictature militaire, au moment où la Coupe du Monde devient l'une de leurs plus grandes opérations de communication. On suit un journaliste sportif lyonnais désabusé du nom de Elias, un militant illustrateur du COBA, donc du comité de boycott, et on peut voir aussi un peu les joueurs qui sont un peu désabusés, comme Dominique Rocheteau, et d'autres qui sont plus focalisés sur la performance, le fait de jouer la compétition et de la gagner. La BD raconte à ce moment donc comme un road movie politique et à la fois tendu, sombre et traversé de silence. Dès les premières pages, le décor est posé. Ici, le ballon n'est pas seulement un jeu, il devient un instrument d'image, un masque, une vitrine, pour faire oublier la terreur d'État. Et c'est par le biais de très belles images qu'ils nous transmettent une histoire très très forte, qui, pour qu'on n'oublie pas les 30 000 disparus, victimes de la junte militaire. Donc, il ne raconte pas seulement le mondial sous un aspect sportif, mais il raconte surtout ce que le régime autoritaire cherche à faire, donc à fabriquer la fête, le spectacle, l'oubli. Et pendant que les stades s'illuminent et que le monde regarde les matchs, des familles cherchent leurs disparus, la répression s'intensifie et la peur circule partout. Donc la Coupe du Monde, elle a servi à détourner les regards, à imposer une lecture officielle du récit, comme si le football pouvait effacer la violence politique. Mais surtout, et ce que je voulais souligner dans ces chroniques, la BD, elle montre aussi que tout le monde n'était pas dupe. Des joueurs de foot à la population argentine. C'est-à-dire que, comme joueur de foot, vous avez à la fin du livre une interview de Dominique Rocheteau qui avait convoqué ses coéquipiers pour penser à des actions à mener. Il pensait mettre un brassard noir, par exemple, pour montrer leur désaccord avec la dictature militaire argentine. Ça n'a pas été suivi, car ils n'étaient que trois, il me semble, en plus de Dominique Rocheteau. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dès le début, il place au centre le rôle des maires de la place de Mai. Et pour cela, pour que vous fassiez une idée et que vous sachiez de quoi je parle, on va écouter une lecture d'un extrait.
Demain, nous irons à la place de Mai. Les folles de la place de Mai, comme ils aiment l'appeler, se réunissent tous les jeudis depuis l'année dernière. Ah oui, les folles de la place de Mai, j'en ai entendu parler. Des femmes qui défilent avec leurs mouchoirs blancs. Ces femmes sont plus courageuses que n'importe qui. Elles réclament des nouvelles de leurs enfants qui ont disparu. Elles exigent la vérité, mais personne ne les écoute réellement. Jeudi 25 mai 1978, place de Mai. Que se passe-t-il, madame? Pourquoi manifestez-vous? Nous voulons nos enfants. Qu'on nous dise où sont-ils? Ma fille est enceinte de 5 mois quand ils l'ont capturée. Mon petit-fils devait naître l'année dernière au mois d'août. Jusqu'à présent, je n'ai aucune nouvelle de lui. La seule chose que nous savons est que les enfants naissent, mais qu'ils les placent ensuite dans des orphelinats comme des NN. Et nous ne pouvons jamais voir nos petits-enfants. Ils disent que nous avons un mondial en paix. Le gouvernement vous traite de menteuse. Nous, des menteuses? Nous qui soutenons que nos enfants ont disparu? Tout est véridique. Au palais de justice, ils ont tous les témoignages. Au ministère des Finances, la police fédérale détient toutes les plaintes, tous les témoignages. Le gouvernement ment et cela fait déjà 2 ans que ça dure. Ils sont entrés 4 fois par effraction dans ma maison. Ils m'ont emmené, ils m'ont torturé afin que l'on dévoile où se trouve mon fils. Est-ce cela l'Argentine? Nous les voulons tous. Nous ne voulons pas récupérer un seul enfant, ni le mien ni un autre, mais tous les enfants de toutes les mères.
Ce que j'ai apprécié dans cet extrait, c'est vraiment la version brute de la lutte qu'elles menaient chaque semaine sur la place donc de Mai. Il faut savoir qu'elles étaient insultées, méprisées, traitées de folles. Et d'ailleurs, ils le disent, on va aller voir les folles de la place de Mai. Mais on voit évidemment que même si le gouvernement autoritaire de, si on peut appeler un gouvernement, le terme régime serait plus adapté, a essayé de réprimer, elles étaient là, elles parlaient, et donc dans cette fiction, Camille Pouzol, pardon, leur laisse aussi exprimer leurs revendications. Donc on peut entendre un autre extrait.
Combien êtes-vous ?
Des milliers ! Des milliers ! Des milliers ! Des milliers à travers le monde.
Vous permettez ?
Nous ne voulons pas seulement savoir où sont nos enfants. Nous voulons savoir s'ils sont vivants ou morts. Nous voulons savoir où ils sont. Qu'ils nous rondent les corps. Ils disent que les Argentins qui sont à l'étranger donnent une fausse image de l'Argentine. Nous, les mères, sommes Argentines et nous vivons dans ce pays. On peut vous assurer que des milliers et des milliers de foyers sont plongés dans la douleur, l'angoisse et le désespoir, parce qu'ils ne nous disent pas où sont nos enfants. Nous n'avons aucune information sur nos enfants. Ils nous ont pris ce qu'une mère a de plus cher et de plus précieux, son enfant. Nous ne savons pas où ils sont, s'ils sont malades, s'ils ont froid, s'ils ont faim. Nous ne savons rien. Et nous ne parlons de disparition, monsieur. Nous ne savons pas vers qui nous tourner. Les consulats, les ambassades, les ministères, les églises. Toutes les portes sont fermées. Vous êtes notre dernière chance, notre dernier espoir. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous.
Pensez-vous que les Argentins sont au courant ?
Non, non. Non, beaucoup l'ignorent. Ceux qui savent sont terrifiés. Ceci est une lettre que nous avons envoyée à tous les footballeurs argentins pour leur dire notre détresse. Nous aimerions que vous puissiez leur parler, pour savoir si ces lettres leur sont parvenues. C'est une copie, s'il vous plaît. Des enfants sont allés auprès des déshérités dans leur bidonville, pour aider des pauvres gens. Cela fait-il d'eux des subversifs ? Ils sont venus dans nos maisons, ils sont entrés par effraction, ils ont volé tout ce que nous possédons, ils ont détruit nos maisons. Pourquoi les ont-ils détruits ? Et pourquoi nous ont-ils tout pris ? Nous prendre nos enfants n'est-il pas suffisant ? Et l'armée, qui a fait tout ça ? L'armée, cette armée d'Argentine qui se dit chrétienne.
Circulez, circulez. Allons, madame, circulez. Regarde ces militaires en train d'intimider les femmes. Les gens parlent de plus de 15 000 disparus, en plus de 10 000 prisonniers. Et des prisonniers de milliers de personnes ont fui en exil.
Je ne comprends pas. Que fout la communauté internationale ?
Vous ne pouvez pas rester. Arrêtez de prendre des photos. Nous ne sommes que journalistes. Nous partons.
Alors, merci à Laurine d'avoir prêté sa voix pour la lecture de ces passages. Ces extraits que j'ai choisis parce que, à la lecture, ça m'avait frappée parce que j'avais cherché les livres donc, pour que vous compreniez le processus sur une librairie en ligne anglaise qui s'appelle Stantio Books. J'avais vu un livre en anglais sur la Coupe du Monde 78. Et à chaque fois, je me dis, ouais, il faut que je l'achète. Et après, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas en France, en fait ? Parce que c'est un sujet qui est important. Et je pense qu'on pense souvent à la Coupe du Monde de 34 en Italie. Mais c'est quand même plus proche de nous, à 78. Par exemple, ma mère est née en 78, donc c'est très très proche. Et donc du coup, j'ai réfléchi, parce qu'on a ce discours sur les boycotts, etc. Et on pense que ça date que des années 2000, avec le soft power, etc. J'ai lu des articles encore il n'y a pas très longtemps en préparant l'émission, et j'étais en mode, il faut arrêter de faire croire aux gens que ça existe que depuis les années 2000, depuis les années 2010, puisqu'ils visent surtout les Qataris. Ça existait depuis le début de l'histoire des Coupes du Monde, le sport washing, mais ça n'était pas nommé ainsi. Mais les Coupes du Monde, voilà, il y a eu l'Allemagne nazie qui était acceptée lors de la Coupe du Monde en France en 1938, il y a eu l'Italie de Mussolini, il y a eu effectivement aussi des boycotts, il y a des éditions où par exemple aux États-Unis, l'URSS ne s'est pas rendue. Donc, et ils sont parlé des sélections africaines, donc il y avait eu cette question du boycott des sélections africaines. On voit d'ailleurs aujourd'hui la RDC qui est mal respecté avec cette demande de quarantaine pour un supposé virus Ebola. Enfin, ça n'a aucun sens. Et l'équipe qui en fait un article alors qu'il y a tant de choses à lire sur la section congolaise. Enfin, vous voyez que ce livre de Noir Mondial 78, il est important à lire Et si vraiment c'est une lecture que j'aimerais qu'il fasse l'objet de tables rondes, etc., c'est celui-là, parce qu'il montre la réalité dès le début, et il montre aussi la force des rassemblements, la force des gens. Ils sont partis à deux, un journaliste et un militant. Ils ont rencontré quelqu'un sur place qui avait peur. On le voit dans le début, qui dit que ouais, je ne vais pas parler avec vous parce que c'est dangereux. J'ai perdu des gens, on ne sait pas où ils sont. Donc tout ça, en fait, ça fait écho. Et en janvier, quand je disais encore « Ah, est-ce qu'il va y avoir des demandes de boycott, etc. »« Ah, c'est comme au Qatar. » J'ai dit « Mais en fait, toutes les Coupes du Monde, depuis le début, j'ai regardé un documentaire très jeune sur toutes les Coupes du Monde. » Et je me disais « Mais en fait, depuis le début, en fait, la FIFA s'accommode des régimes autoritaires parce qu'ils auraient pu replacer la Coupe du Monde 78. Ils l'ont pas fait. Ils ont fait venir des émissaires, ou je sais pas comment ça s'appelle, j'ai plus le terme. Ils ont dit non, vous inquiétez pas, tout va bien, tout est nickel. Et donc du coup, ils ont quand même fait la Coupe du Monde là-bas. Et d'ailleurs, je voulais rappeler aussi une anecdote en fin de cette chronique sur la tentative d'enlèvement de Michel Hidalgo. Bah, c'est pareil, on en entend parler, mais on n'entend pas le fait que les personnes qui ont voulu le kidnapper, bon, évidemment, c'est un peu extrême, mais enfin, c'est ce que je pensais avoir avant d'avoir connaissance des raisons. Ils ont fait ça, ce mouvement-là, cette action-là, pour protester contre la livraison d'armes de la France en Argentine. Et en faisant mes recherches, il est prouvé que ces armes-là ont été utilisées pendant la guerre des Malouines dans les années 80. Donc voilà, donc la France, toujours du mauvais côté de l'histoire. Et pourtant, j'ai grandi avec cette idée qu'on respectait le droit international. Hormis le fait que, bah, effectivement, moi, quand j'étais plus jeune, étant ivoirienne, j'avais un peu ce... Pas ce... Comment dire... Je voyais bien le double discours, en réalité. Mélenchon, on en a parlé récemment. Si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous invite à le faire. Et au fond, cette BD, du coup, elle nous apprend à ne jamais regarder un mondial seulement comme un spectacle, mais aussi comme un fait politique, parce que le sport, il devient dangereux quand il se prétend neutre, et qu'il est au service des puissants, et là, il est au service d'un mégalomane. Donc, il faut vraiment que face à la propagande et à l'oubli, les voix continuent de tenir et de faire mémoire. C'est-à-dire que pour l'instant, peut-être qu'on n'est pas entendu, mais ce ne sera pas le cas éternellement. Donc c'est tout pour cette chronique. J'espère que ça vous aura donné envie de lire la BD. Et maintenant, on va passer à la prochaine interview. Donc on va rester sur ce sujet du sport politique et parler de ses figures possibles. Donc pour ça, j'ai l'honneur de recevoir Nicolas Kassim-Martov, qui est l'auteur de Latéral Gauche, les figures politiques du foot. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous.
Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices?
Oui, moi je m'appelle Nicolas Kassim-Martov. Je suis journaliste dans divers revues et magazines, dont la revue de la FHT qui s'appelle Sport et plein air, SoFoot, etc. J'ai une formation d'historien, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire du football, mais dans un cadre plus universitaire, donc j'ai un peu la double casquette.
D'accord. Et donc du coup, là, la deuxième question, ce sera sur la conception du livre. Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant?
Alors, au départ, le livre est une idée, une commande de mon éditeur Libertalia, pour l'idée de voir un ouvrage un peu engagé sur la question du football, notamment à l'approche de la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis et au Canada et au Mexique. Mais bon, le point central, pragmatique, c'est comme les États-Unis. Et quelque chose par ailleurs de plus longue durée et plus viable sur le temps que le petit pensée que j'avais publié chez eux avant la Coupe du Monde au Qatar, qui s'appelait « Le Mondial de la Honte ».
D'accord, merci. Et donc du coup, quelle a été ta méthodologie de travail? Comment tu as fait pour sélectionner, choisir les figures que tu allais mettre en avant?
D'abord, effectivement, j'ai oublié de préciser que c'était la forme qui a fini par être adoptée, c'est comme celle d'une galerie de portraits avec notamment une figure centrale et quelques personnages qui étaient sur le banc. Le choix, je l'ai fait seul à partir de, comme je l'ai expliqué en me présentant, de 30 années de journalisme sur le foot, généralement sur ces questions politiques et sociales, et également à travers différentes recherches historiques. C'est pour ça qu'on peut retrouver des figures, pas forcément toutes des grandes stars du football, des personnages qui sont un peu plus inconnus, en tout cas qui sont pas des joueurs pros. Voilà, donc et après, il y a eu l'idée de faire un espèce de kaléidoscope qui est en toute subjectivité, comme je l'ai mis dans mon intro. Il manque plein de monde, on pourra sûrement me reprocher d'avoir oublié un tel ou un tel. Il y a zéro problème, c'est très subjectif, c'est un point de vue qui est le mien, et en endossant totalement, entre guillemets, comme je l'ai également écrit, la part de mauvaise foi qui peut être accolée à ce genre de démarche.
D'accord, très bien. Donc effectivement, quand tu parles des figures qui manquaient, je me disais, pourquoi, par exemple, je pensais à Eugène Joléa, tu vois, ouais, qui est derrière la création de l'UNFP. Donc je me disais, bon, c'était bon. Je sais pas,
oui,
pour le...
Il y a beaucoup de gens qui sont pas dedans. D'une part, parce que forcément, je ne connaissais pas forcément leur histoire et que j'ai moins de choses à dire dessus. J'accepte complètement l'idée qu'on peut... comme je l'ai mis dans mon intro, vraiment, oui, il n'y a quasiment pas de footballeur allemand. Il n'y a pas Breitner, par exemple, qui, par ailleurs, est un latéral gauche. Il y a des pans entiers, il y a très peu de foot africain, même s'il y en a un peu. Mm-hmm. Mais voilà, il y a le double filtre de ma propre subjectivité et de ma connaissance du sujet, parce que j'ai pas non plus envie de parler, de m'aventurer sans être un minimum sûr ou expert, c'est un peu flatteur, mais voilà, moi je ne suis pas un spécialiste de tout, et contrairement à d'autres. Et donc je voulais aussi que, même dans le cadre de mon approche et des angles qui sont les miens et de ma part de subjectivité, je voulais rester un minimum honnête et compétent. Donc voilà, donc ça explique, par ailleurs, il pourrait y avoir peut-être un tome 2, j'en sais rien, effectivement, même tout ce que j'avais envie de mettre, je ne l'ai pas fait, parce qu'il y a aussi l'idée de faire un livre qui était poche, assez facile de lecture et de transport, d'accès, donc pas quelque chose qui fasse tome ou encyclopédie.
Oui, d'accord. Donc je l'entends parfaitement, effectivement, parce que déjà c'est très riche en termes d'informations. Enfin, moi, il y a des personnages, effectivement, que je ne connaissais pas.
Comme les deux figures que tu présentes au début du livre, Henri Klenhoff et Emmanuel Mink.
D'ailleurs, tu as décidé de faire ça de manière chronologique. C'est une question que je me suis un peu traversée.
C'est pour le confort de lecture. C'est pour que la personne qui rentre dans le livre puisse avoir cette facilité de circulation. Voilà, moi je pense que c'est toujours plus simple. En plus, il y a une petite dimension historique. De respecter un minimum cette évolution, même si ça se chevauche à certains moments. Hein. Et notamment quand j'arrive, quand j'ai un chapitre, vous verrez, qui part sur les supporters, et les époques aussi se mélangent. Mais oui, j'avais envie d'aborder ça d'un point de vue que ça soit assez simple à lire, d'y entrer, d'y circuler, et de s'y retrouver pour le lecteur s'il a envie de le faire un chapitre après l'autre. Après, je pense qu'il est tout à fait possible d'aller au chapitre qui vous intéresse en premier. C'est pas une histoire, hein. J'ai pas l'intention d'avoir écrit un roman ou autre chose. Donc moi, j'ai voulu au moins, c'est la seule petite pointe de rigueur qu'il y a dedans, on va dire.
Non, mais du coup, c'est extrêmement réussi, parce qu'effectivement, on peut le lire. Enfin, moi, du coup, au début, quand je l'ai parcouru, j'ai lu d'une traite. Mais c'est vrai que, du coup, pour préparer l'interview, j'ai plus pris le temps par chapitre. Et ce qui est bien, c'est effectivement le fait que, vu que tu es respecté au maximum la chronologie, c'est que tu ancres en fait le football dans l'histoire avec un grand H, et c'est ce qui manque souvent dans les traitements médiatiques. D'ailleurs,
je me suis rendu compte que tu parlais de Barcelone comme alternative possible et malheureuse, du coup, puisqu'elle n'a pas été choisie, à l'Allemagne nazie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Barcelone voulait accueillir les JO à la place de Berlin. Le CIO avait refusé parce qu'ils étaient. À ce moment-là, il y avait des agitations en Espagne républicaine contre la monarchie, et que ça les avait un peu angoissés de voir toutes ces personnes venir, les manifestations, les événements. Donc c'est Berlin qui avait été choisi. Entre-temps, il y a l'accession au pouvoir d'un Frente Popular en Espagne. avec une configuration très singulière par rapport à la France, parce qu'il y avait la question de certains nombres d'autonomismes basques, catalans, déjà, qu'il existait dans ces pays, notamment des formes de mouvements autonomes de gauche, mais qui n'étaient pas forcément liés au mouvement ouvrier. Et c'est dans ce cadre-là que, quand les nazis sont arrivés au pouvoir et qu'il y a eu des grands mouvements de boycott, notamment aux États-Unis et en Europe, contre les JO de Berlin, l'idée est venue d'organiser à Barcelone, en association avec beaucoup de structures ouvrières à travers l'Europe, mais pas que, des JO qui seraient, des journées populaires qui seraient une version ouverte et progressiste de ce genre de rassemblements sportifs internationaux. Il y avait une forte dimension culturelle. Il y avait, comme j'ai dit, des délégations qui venaient de peuples sans État, y compris par exemple du Maroc. Il y avait également des structures des équipes de réfugiés. Alors, il y en a maintenant au CIO un peu, mais de réfugiés politiques qui venaient d'Allemagne, d'Italie, etc. Et il y avait des compétitions de haut niveau, mais il y avait des échelons de compétition, des épreuves qui étaient ouvertes aux amateurs qui pouvaient venir. Alors, c'était une autre époque, on ne circulait pas, on ne voyageait pas comme ça entre pays. Mais il y avait des épreuves ouvertes aux amateurs, fin de la compétition. Donc c'était un autre format, qui n'était pas non plus celui de ce qui existait avant, qui était les Spartakiades, organisées par l'URSS, ou les Olympiades ouvrières, entre guillemets, socialistes, mais qui était une forme réinventée. Alors moi, je ne suis pas du tout fan d'Olympisme, mais il y avait cette notion-là de proposer un autre style de sport, et ça n'a jamais pu avoir lieu parce que le coup d'État franco s'est déclenché la veille. Voilà, ouais, donc l'Espagne est sombrée dans la guerre civile. Mais un certain nombre de gens qui étaient venus participer sont revenus ou sont battus dans les brigades internationales. Je parle du cas donc d'Emmanuel Mink, qui était footballeur dans un IASC et qui s'est battu dans toute la guerre d'Espagne et qui après est revenu devenu résistant, etc.
Ok, super. Et du coup, moi, j'avais posé la question à l'autre auteur d'une recommandation que tu pourrais faire aux auditeurs, aux auditrices qui veulent en savoir un peu plus après avoir lu ton livre. Je vais arriver, je suis fatiguée. Parce que tu as mis une grosse bibliographie à la fin. Mais toi, quel livre tu conseillerais?
Ben, je conseillerais, tu en as déjà parlé, c'est l'histoire populaire du football de Michael Correa. C'est vraiment l'ouvrage... c'est plus épais que le mien, c'est bien plus documenté, c'est à ce stade de beaucoup de problématiques. Il a été ressorti, je crois, en poche en plus. Je sens m'avancer. Et pour ceux qui ont la flemme, il y a une version en bande dessinée. Voilà, s'il y a quelque chose que je conseillerais pour aller plus loin, et après d'aller voir aussi bien ma bibliographie que celle de Michael, où il y a un grand nombre de livres de différents auteurs, quels qu'ils soient, qui sont exposés sur les thématiques plus précises. Ou plus spécifique. Moi, c'est vraiment l'histoire populaire du football parce que c'est vraiment un ouvrage extrêmement important pour moi, pour les gens qui, comme moi, ont essayé d'avoir ce regard-là sur le football. Mais il y a par exemple aussi la classe populaire du football de Yann Dehel qui s'occupe d'un site très bien foutu, c'est DIT Football. Voilà. Mais pour commencer, après, il y en a tellement.
Il y en a tellement.
Aujourd'hui, je dois dire qu'heureusement, il y a...
prise de conscience et aussi une forme de reconnaissance aussi de ces ouvrages-là. Il y a un
intérêt. Il y a des gens. Puis les gens écrivent, connaissent et sont passionnés. Pour écrire bien sur ce sujet, il faut être passionné. Sinon, ça devient vite. Il faut être passionné, y compris quand on. Pour être critique, il faut être passionné.
Exactement. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange qui nous rappelle qu'il faut mettre les figures du foot dans leur époque. Et ne pas gommer leurs facettes politiques. Voilà, notre émission touche à sa fin. Un dernier mot, je dirais, continuez à lire, à vous former, à débattre, à écouter et à faire circuler d'autres ici comme ceux que vous venez de découvrir aujourd'hui. Mais n'oubliez surtout pas de danser, surtout en ce moment. Je voulais prendre ce temps en fin d'émission pour des remerciements. Alors, à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin ces 10 dernières années, qui m'ont accompagnée, dans les hauts et les bas, enfin les très hauts et les très bas, ainsi qu'une mention spéciale donc à ma maman, mon papa, ma petite sœur Laurine et mon petit frère Michael, qui m'ont soutenue et surtout écoutée dans toutes mes diatribes footballistiques. Un grand merci à Cesse et Clara, sans qui je n'aurais pas pu faire cette émission spéciale, cette deuxième émission sur la littérature sportive. Et merci à vous, vous pouvez faire vos recommandations et réflexions sur les pages Instagram et Facebook de l'émission. À bientôt sous nos ondes.